Comme moi, vous trouvez que l'univers des médias du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nîmes Cassée du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis c'était gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben, nous autres avec.
Bonjour, ici Sophie Thibault. Le yais est un symbole d'espoir pour les 13 à 18 000 Québécois atteints de la sclérose en plaques. Du jeudi 5 au dimanche 8 mai prochain, en achetant un œillet ou un bouquet, vous nous aiderez à vaincre cette maladie neurologique qui atteint principalement les femmes et dont ma mère a souffert durant plus de 50 ans. Faites comme moi, soyez généreux et aidez-nous à stopper la SP. Pour connaître les points de vente, consultez notre site scléroseenplaques.ca ou composez le 1-800-268-7582. Merci.
Bonjour à tous, c'est Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutez l'émission Au 7e ciel, une émission entièrement consacrée au cinéma sous toutes ses formes. Le cinéma qui s'invente, le cinéma d'un point de vue plus patrimonial. Qu'est-ce que le legs du cinéma dans la culture contemporaine? Que nous apporte le cinéma dans nos vies? Comment peut-il changer nos vies? Comment le cinéma a influencé notre vision du monde depuis ses débuts? C'est un des projets qui m'anime ici lorsque j'anime justement cette émission. Et cette semaine, ça fait un bout de temps que je l'annonce, mais de 16h à 17h30, je vais concentrer mon propos principalement sur un festival de cinéma qui a lieu chaque année à Buenos Aires, un festival qui s'appelle le Bafichi, qui est principalement consacré au cinéma indépendant, en particulier évidemment puisque ça se déroule à Buenos Aires, le cinéma qui se crée, qui s'invente sur l'hémisphère sud, au Brésil, en Argentine, au Pérou, en Uruguay, etc. Évidemment, il y a des pays où l'industrie cinématographique est davantage développée, où il y a aussi, c'est pas juste une question d'avoir plein de richesses ou plein de ressources pour qu'il y ait une cinématographie vivante. Il faut aussi qu'il y ait des courants, des tendances. C'est aussi une manière d'enseigner le cinéma qui permet de développer des talents. Donc, c'est pas simplement les moyens et les ressources techniques qui permettent à un courant national d'éclore dans le cinéma. C'est beaucoup plus complexe que ça. Sinon, on pourrait dire que le cinéma suisse est le cinéma le plus vivant aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas, même s'il y a une nouvelle vague suisse ces années-ci. Donc évidemment, il y a des drôles de phénomènes qu'on peut toujours observer dans les festivals, c'est-à-dire des tendances où finalement certains pays prennent le devant de l'affiche. Je pense en particulier ces années-ci au cinéma chinois, peut-être au cinéma roumain, par exemple. Il n'y avait pas nécessairement d'observateurs dans la critique cinématographique occidentale il y a quelques années pour affirmer que le cinéma roumain allait devenir un des lieux dans le monde où l'art de la mise en scène cinématographique se réinvente de manière assez surprenante, assez radicale parfois. C'était l'occasion d'ailleurs encore de le constater pour moi cette fois-ci lorsque je suis allé au Bafici. Parce que le Bafici n'est pas simplement un festival où on met de l'avant les films qui se font dans l'hémisphère sud, le cinéma indépendant latino. Au-delà de ça, il y a aussi une fenêtre qui s'offre à nous lorsqu'on est dans ce festival sur une sorte d'état du monde du cinéma contemporain, et en particulier le cinéma roumain l'illustre fort bien. Le cinéma turc est un autre exemple. La Chine également, même si la Chine n'était pas nécessairement si représentée cette année. Et évidemment, des pays hispanophones ou latins d'Europe sont mis d'avant. Ben, je pense surtout à l'Espagne et au Portugal. Je pense à l'Espagne et au Portugal. Donc, il y a aussi des tendances du cinéma d'auteur en Espagne et au Portugal qui trouvent une fenêtre formidable dans le cadre du Bafici, puisque le public d'Argentine et de Buenos Aires, évidemment, est très réceptif à ce type de cinéma et à la production plus pointue qui se fait en Espagne et au Portugal, dans la mesure où, évidemment, pour des raisons culturelles qui sautent aux yeux, ce cinéma trouve un public pratiquement naturel là-bas. Et pour le spectateur non latino ou pas nécessairement habitué ou spécialiste de ces cinématographies, que ce soit la cinématographie brésilienne, argentine ou portugaise ou encore espagnole, ben c'est une occasion en or de découvrir des jeunes auteurs ou encore des artistes plus confirmés, mais qu'on connaît assez mal en Amérique du Nord ou dans les pays où la critique cinématographique est si influente et dessine tellement les tendances actuelles, que ce soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis. Également au Canada, évidemment, depuis l'influence, entre autres, du cinéma de Toronto, mais c'est une vieille tradition, les festivals de cinéma. On le sait ces temps-ci, il y a toujours des histoires dans le milieu culturel qui reviennent à propos de nouveaux festivals de cinéma, à propos d'approches singulières pour célébrer le cinéma. Toutes les villes importantes presque du Canada cherchent à offrir une fenêtre particulière au cinéma. Et donc, avant Toronto, Montréal était une vitrine très importante au courant des années 60, peut-être la principale vitrine en Amérique du Nord à proposer du cinéma d'auteur pendant quelques années, qui sort des sentiers battus. Polanski est venu pratiquement pour la première fois en Amérique du Nord grâce à l'invitation du Festival de Montréal, je crois, en 63, à l'occasion de la sortie de son film Le couteau dans l'eau. Bon, c'est pour dire que les festivals de cinéma sont avant tout l'occasion de découverte. Et l'exemple du festival de Bafici va me permettre, j'espère, un peu aujourd'hui, de faire une sorte de détour ou de regard de biais sur la création contemporaine à partir d'une sélection et d'un contexte socioculturel un peu éloigné des référents canoniques que l'on connaît bien, c'est-à-dire les films et les auteurs qui sont mis de l'avant à Cannes, à Toronto, à Venise, à Berlin. Il y a d'autres tendances qui se dessinent, qui trouvent leur place dans les festivals comme Locarno en Suisse, et avec un accent particulier, comme je le disais, sur le cinéma latino à Buenos Aires. Donc c'est un peu le plan de match aujourd'hui, c'est de parler de ces tendances.
Thank you.
On vient d'entendre Don Cherry tiré de son album mythique Brown Rice, la pièce Malkins, une pièce où on reconnaît la ligne de basse caractéristique de M. Charlie Haden, un album emblématique de ce qu'on pourrait appeler le jazz fusion dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire sous l'influence entre autres de Bitches Brew de Miles Davis, ce qui est très reconnaissable par l'effet d'amplification tous azimuts, autant sur la contrebasse de manière relative, bon, elle est mise surtout à l'avant-plan, mais également la trompette, évidemment, réverbération à la trompette qui a été particulièrement mise en valeur à partir de la fin des années 60 par Miles Davis. Et des accents hindous sont ajoutés à ça. Encore là, on peut penser à un album comme Big Fun de Miles qui utilisait de la sitar. Donc, un album très inspirant de Cherry. Pour parler du Bafissi, on n'est pas à une référence multiculturelle et à un éclectisme artistique près. Le Bafissi, comme je le disais en début d'émission, pour annoncer les couleurs de cette émission aujourd'hui, est un festival qui se déroule à Buenos Aires chaque année, festival consacré principalement au cinéma indépendant. Et quand on va dans un festival comme celui-là, forcément, on est face à une question. Il y a des auteurs qui sont révélés par ce type de festival simplement parce que il y a une mise en valeur du cinéma latino, du cinéma de l'hémisphère sud qui ne se rend pas si aisément jusqu'à nous, curieusement, alors que pourtant la culture argentine est tellement référencée, c'est-à-dire tellement proche de l'Europe finalement. Mais les créateurs qui s'y trouvent parviennent parfois assez mal, c'est le cas des écrivains. On va peut-être s'en rendre compte aussi prochainement. Il y a certains écrivains, poètes qui seront traduits en français. Des écrivains, entre autres, argentins et uruguayens qui seront traduits en français dans une parution de la revue littéraire Contre-jour, dont je m'occupe aussi un peu de près. Mise en valeur presque dans les kiosques et journaux là-bas qui ont gagné les prix les plus prestigieux et qu'ici, on ne voit à peu près pas. On a toujours sur le bout des lèvres le nom de Borges, mais on oublie un peu toute cette vague de créateurs absolument prodigieuses qui déferle dans les lettres latino-américaines depuis le début du XXe siècle. Si on regarde un peu du côté de la peinture, ne serait-ce qu'un peintre comme Xul Solar, qui était proche de Borges, on se rend compte assez vite que le cubisme, les fantasmagories surréalistes n'ont pas influencé l'art pictural argentin. Mais l'art pictural argentin avait plutôt d'emblée les deux pieds dedans. les deux pieds dans le surréalisme, les deux pieds dans le cubisme, au moment où ces courants s'affirmaient, à la fois parce qu'il y avait, il y a toujours eu en fait des artistes argentins qui faisaient des allers-retours entre l'Europe et l'Argentine, ou alors quittaient l'Argentine, s'installaient en Europe, et à un moment ou l'autre s'affirmaient leur référence, leur attachement culturel, si on veut, à l'Argentine. Le tableau historique qu'on peut dessiner en ce qui a trait aux liens qui, très forts qui unissent l'avant-garde, autant en littérature, en peinture qu'en cinéma, nous fait comprendre que l'art en général et la culture qui est au cœur de la vie à Buenos Aires, on pourrait aussi penser à la bande dessinée, ont une particularité qui consiste à mettre de l'avant l'innovation de façon presque naturelle, spontanée, et c'est un art populaire, c'est populaire, c'est vu comme étant populaire en fait, et ce dont je me suis rendu compte en allant à Buenos Aires il y a quelques semaines, j'y étais jamais allé auparavant, c'est un acte populaire que d'aller vers l'innovation, l'invention dans la culture à Buenos Aires. C'est extrêmement valorisé et ça l'a été dès le début du siècle, donc du dernier siècle. Donc c'est une société où l'inventivité et les forces créatrices ont été mises de l'avant assez tôt, compte tenu de la jeunesse de ce pays. Et c'est sans doute pas innocent que les liens entre l'Argentine et l'Europe aient été aussi forts et jamais déniés, dépréciés. Ce qui est visible par ailleurs très souvent dans la littérature ou le cinéma québécois, une volonté par exemple de se comparer constamment à la France, soit en bien, soit en mal, mais on reste dans un jeu de comparaison où forcément il y a un problème d'ego qui se met rapidement en scène, en bien ou en mal, encore une fois. Au contraire, cette question-là, en général, c'est l'impression que j'ai, aussi bien dans le cinéma argentin, peut-être aussi dans le cinéma uruguayen, et dans la littérature, la peinture. Ce jeu de comparaison n'a pas spécialement lieu, au contraire. On décide presque de manière ludique de montrer des liens à la limite de l'absurde entre la culture européenne et sa transplantation dans un espace géographique, un climat qui n'a pas grand-chose à voir nécessairement avec la découpe de la ville de Paris, mais on sait que la ville de Buenos Aires, par exemple, est largement copiée sur le dessin de la ville de Paris. Et ceci est fait de manière tout à fait consciente et très ludique. Et, dans le centre, par exemple, dans le micro-centro de Buenos Aires, on peut rapidement tomber sur des rues qui nous ramènent à ces références culturelles, en particulier une rue comme Boulogne-sur-Mer. En plein centre de Buenos Aires, tomber sur la rue Boulogne-sur-Mer, il y a de quoi rire. Et donc, ces références, par exemple, à la culture européenne qu'on voit souvent, aussi bien aux États-Unis qu'ici, de manière un peu plaquée, décalée. Je sais pas, par exemple, dans l'État de New York, il y a une ville qui s'appelle Ithaca, qui est évidemment le port d'attache d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Ça fait sourire, surtout aujourd'hui, lorsqu'on sait que ces villes de l'État de New York, comme Ithaca ou Syracuse, sont des villes qui sont plus ou moins fantômes. C'est pas ce type de référence à l'Europe assez fantomatique, assez spectral finalement, assez plaqué, décalé, qu'on voit à Buenos Aires. Au contraire, le lien entre l'Europe et l'hémisphère sud, en tout cas du point de vue argentin, est tout à fait direct, tout à fait étrange certainement, mais assumé. Donc il n'y a pas une sorte de décalage fantomatique bizarre que moi je ressens, en tout cas quand je me balade sur la côte est. Et ça colore aussi la manière dont se passe ce festival Bafici, cinéma indépendant. Et quand on parle de cinéma indépendant, moi je